Alors, on va rester un tout petit peu dans le domaine des rêves, mais maintenant, on va entendre parler des prophéties et rêves censurés dans les archives royales de Marie.
Si. La question qui nous est posée par les organisateurs de ce colloque est: comment devient-on un prophète ? Il n'existe dans les archives de Marie aucun récit de vocation prophétique comme on en trouve dans la Bible, et cela en raison de la nature radicalement différente des deux corpus. Contrairement à ce qui est parfois un peu trop rapidement indiqué, il n'existe pas de texte prophétique dans les archives de Marie. Ce qui nous est parvenu, ce sont d'abord les termes mêmes de prophétie telles qu'elles ont été portées à la connaissance du roi de Marie dans une cinquantaine de lettres qui lui ont été adressées par des personnes qui ont été les auditeurs de ces prophéties, des gouverneurs de province, des proches du souverain, etc. Vous en avez ici un exemple. On a donc affaire à des documents bruts qui n'ont jamais été retravaillés par la suite, et c'est ce qui fait bien entendu tout leur prix. Ces textes nous sont parvenus tels qu'ils ont été écrits au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ et conservés pendant des siècles dans les décombres du palais de Marie, détruits par les soldats de Hammurabi de Babylone vers 1760 avant Jésus-Christ. Ce qui est très précieux dans le cas de Marie, c'est que ces lettres ne sont pas dépourvues de contexte. D'abord parce qu'elles s'éclairent les unes les autres. Il faut rappeler que la densité chronologique de cette correspondance est tout à fait extraordinaire. Actuellement, plus de 2500 lettres ont été publiées, mais il reste encore beaucoup à faire. Alors ici, la petite publicité habituelle pour le site Archibab, sur lequel vous trouverez de plus en plus de textes, et donc vous pouvez demander à avoir le catalogue de toutes les lettres trouvées à Marie. Donc, plus de 2500 lettres publiées, couvrant une période d'une vingtaine d'années seulement, ce qui fait une moyenne de une lettre tous les trois jours. Et quand la totalité du corpus sera publiée, ça fera plus que doubler. Par ailleurs, l'abondance des textes administratifs permet de compléter notre connaissance du contexte, en particulier grâce à des informations chronologiques très précises qu'ils contiennent. Et dans certains cas, on peut mettre en rapport une prophétie rapportée dans une lettre avec le cadeau qui a été fait au prophète qui l'a transmise. Jean-Marie Durand a montré, par exemple, comment un certain Louparoum, qui recevait un cycle d'argent dans un document comptable pourvu d'une date, eh bien, c'était le même qui était mentionné dans une lettre où son activité prophétique était décrite. Ce tableau très positif s'accompagne néanmoins de limites. Certes, nous pouvons estimer que, dans bien des cas, nous possédons les paroles mêmes que les prophètes ont dites. Dans une occasion privilégiée, nous avons même la lettre qu'un prophète dicta en personne de la part du dieu Shamash et qui est adressée au roi de Marie. En revanche, nous n'avons aucune confession d'un prophète, aucun récit biographique ou autobiographique. Et là, il faut remarquer d'une façon tout à fait étonnante que ça n'est pas dans une lettre à contenu prophétique que nous trouvons une allusion au concept même de vocation, mais dans la lettre d'un administrateur. Peu après sa nomination à la prestigieuse fonction de Chandabakoum, une sorte de ministre de l'économie, un certain Tsidkiépour écrivit au roi de Marie « Monseigneur m'a placé à un poste considérable, mais je ne suis pas assez fort. De même que le Dieu appelle l'humanité, à présent, moi, simple ver de terre des fondations du mur, mon Seigneur, dans sa divinité, m'a touché le menton et m'a renvoyé aux hommes. Or, je ne possède rien. » Dans la suite de la lettre, le personnage se plaint de son dénuement. N'ayant pas d'accès direct au roi, au moment où il écrit, il est passé par l'intermédiaire de son influence secrétaire, mais il n'a pas pu obtenir gain de cause, et donc finalement il se décide à écrire au souverain pour lui demander de bénéficier des mêmes privilèges que son prédécesseur, et ça c'est une situation pour laquelle on a des parallèles. Si l'on analyse ce passage, il est tout à fait symptomatique que l'on soit ici dans le domaine de la comparaison. Le roi, dans sa divinité, a attribué à Tsitkiépour une mission. Il est tout à fait regrettable que le recueil qui a été récemment publié d'études concernant la divinisation royale n'ait pas pris ce texte en compte, parce que c'est quelque chose de tout à fait important. L'administrateur, distingué par le choix du roi, s'en déclare indigne, mais c'est en fait pour mieux réclamer ce qu'il considère comme son dû. Et donc, on est ici clairement au niveau de la rhétorique courtisane, avec une humilité affectée. Par ailleurs, on doit remarquer, comme l'avait fait Venhoff, que la rhétorique ici nous offre le plus ancien exemple d'autodénigrement avec la comparaison de soi-même avec un ver ou un vermisseau, métaphore qui a eu une bonne postérité dans la Bible. J'en donne ici un exemple, il y en a d'autres évidemment. Donc, faute de récit équivalent concernant un prophète, on ne peut pas répondre à la question « comment devient-on prophète ?» et à la question de la vocation des prophètes. Mais il est possible d'étudier d'abord la formule par laquelle certains prophètes qualifient la mission dont ils ont été chargés par la divinité. Je vous propose ensuite de voir comment certaines personnes refusaient de transmettre une prophétie dont elles avaient eu connaissance, et on terminera par étudier des cas qu'on pourrait qualifier d'autocensure, donc dans lesquels ce ne sont pas les intermédiaires, mais les détenteurs du message divin eux-mêmes qui refusaient d'accomplir leur mission, ou du moins le faisaient avec beaucoup d'hésitation. Les prophéties pouvaient être émises par des gens que l'on considère comme des professionnels des deux sexes. Jean-Marie Durand vient de nous rappeler les deux termes qui sont employés dans les archives de Marie pour les désigner, apilum avec son féminin apiltum d'une part, murrum avec son féminin murrutum d'autre part. La question de la différenciation entre les deux est délicate, mais je dirais que ici, ce qui m'intéresse, c'est davantage ce qui les unit. Dans les deux cas, on a affaire à du personnel religieux rattaché à un temple et à une divinité. Mais à côté de ce qu'on peut qualifié de professionnel de la prophétie, on a aussi des cas de prophétie ou de rêve qui sont le fait d'individus quelconques. Et dans un certain nombre de lettres, la transmission de la prophétie est précédée par ce qu'on peut appeler une formule d'envoi en mission. Tel est le cas de plusieurs prophéties adressées par le dieu Dagan de Terka au roi de Marie Zimrilim. On lit ainsi dans une lettre du gouverneur de Terka qui brille Dagan: le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez Monseigneur, un extatique murrum de Dagan m'a tenu ses propos. Dagan m'a envoyé, au sujet du sacrifice Pagraou à accomplir, envoie un message à ton Seigneur pour que le sacrifice Pagraou soit accompli le 14 du mois qui commence. Il ne faut nullement laisser passer ce sacrifice. Voilà ce que cet homme m'a dit. On remarque dans ce passage que, contrairement à bien des exemples, on n'a pas ici la reproduction d'un discours directement adressé par le dieu au roi. La formulation est indirecte. On retiendra surtout la formule « Dagan Ishpurani, le dieu Dagan, m'a envoyé ». Il en va de même dans une autre lettre du même Kibri Dagan, très semblable, autre chose: le jour où j'ai fait porter ma présente tablette chez Monseigneur, un extatique murrum de Dagan m'est arrivé, et voici ses propos. Le Dieu m'a envoyé, dépêche-toi d'envoyer un message au roi, afin que l'on voue le rite funéraire qui spie au man de Yardounlim. Voilà ce que cet extatique m'a dit, et je viens de l'écrire à Monseigneur. Ici, la formule est légèrement différente, puisque on a cette fois le dieu, Ilum, m'a envoyé sans que la divinité soit nommée. Mais dans les deux cas, il s'agit d'un extatique murrum de Dagan, sans qu'on puisse savoir s'il y a une raison particulière à cela. Kibri Dagan ne donne pas de nom propre, ce qui empêche de savoir s'il s'agit dans les deux cas de la même personne. On sait par ailleurs qu'il existait plusieurs extatiques murrum rattachés au même dieu dans la même localité. Par exemple, on a une lettre qui mentionne plusieurs extatiques murrum de Dagan On suppose que c'est Aterka, mais le texte ne le dit pas explicitement. On a les extatiques Mouhoum du dieu Amou de Rupshaloum et une autre lettre qui mentionne cinq extatiques Mouhoum du dieu Addou, vraisemblablement à Nahour. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de gens qui sont en quelque sorte des professionnels, c'est-à-dire en tout cas qui appartiennent au personnel du temple. Un autre exemple est intéressant précisément parce que ça n'émane pas de quelqu'un qui appartient au domaine du temple. Une femme, épouse d'homme libre, est venue et m'a parlé à propos de l'affaire de Babylone en ces termes. Dagan m'a envoyé, envoie un message à ton seigneur pour qu'il ne s'inquiète pas et que le pays non plus ne s'inquiète pas. Toujours une lettre de Kibri Dagan, toujours la formule d'envoi. Toujours une formule indirecte, hein, envoie un message à ton seigneur pour qu'il ne s'inquiète pas. Ici, c'est clairement ce que dit la femme à Kibri Dagan. Ça n'est pas le message du dieu. Et donc, le fait qu'on ait ces trois lettres qui se ressemblent formellement assez fort a poussé certains, en particulier Ichiro Nakata, à considérer que ces prophéties, cette singularité en quelque sorte, venait du fait que ces prophéties étaient transmises au roi par Kibri Dagan, qui avait une manière standardisée de présenter les prophéties. Cependant, on trouve des formules proches, à propos de messages prophétiques transmis lors d'un rêve. C'est ainsi qu'une femme écrivit à la reine-mère Adoudouri « J'ai vu un rêve ». À ton sujet, dans mon rêve, Belet et Kalim m'envoyaient comme messagère, et malheureusement, la suite est cassée. Ça n'est pas le seul cas où c'est dans un rêve qu'un individu reçoit de la divinité une mission prophétique. Et ici, je ne peux pas évidemment éviter de rappeler le texte très célèbre que Georges de Saint avait appelé la révélation de Dagan de Terka. Un certain Malik Dagan rapporta à Itourazdou le rêve qu'il fit. Il se vit dans son rêve entrer dans le temple de Dagan de Terka, et à ce moment-là, le dieu lui adressa la parole. Et le discours divin s'achève ainsi. « Maintenant, va, dit le dieu, tu es mon messager. Tu parleras à Zimrilim en ces termes, envoie tes messagers chez moi, etc. » Une fois encore, c'est le verbe « chaparoum », envoyer, qui est ici employé. Et ça n'est pas le messager qui dit « Dagan m'a envoyé », dans le récit de son rêve, c'est le dieu lui-même qui lui déclare qu'il l'envoie. Aucun de ces textes ne nous dit donc véritablement comment on devient prophète, mais les personnes qui avaient le sentiment de devoir transmettre un message au roi de la part d'une divinité insistaient sur le fait qu'elles étaient envoyées par celle-ci. Par ailleurs, le modèle est clairement celui des relations diplomatiques. Au lieu d'être en mission pour le compte d'un roi étranger, les prophètes, professionnels ou occasionnels, étaient envoyés par un dieu. S'agissant du monde mésopotamien du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, il n'est donc pas vraiment possible de répondre à la question « comment devient-on prophète ?». Par contre, on peut répondre à la question inverse « comment ne pas devenir prophète ?». En effet, si l'on définit de façon large le prophète comme porte-parole de la divinité, un individu chargé d'un message divin, prophétie stricto sensu ou rêve, on constate, dans certains cas, que son message peut ne pas parvenir à son destinataire. Et ce sont ces cas de censure ou d'autocensure que je voudrais maintenant examiner. Alors, le premier aspect, c'est qu'on voit, dans certaines circonstances, l'entourage du souverain qui censure des prophéties ou des rêves défavorables. Premier exemple, donné dans une lettre d'un certain Usharesh Retil à Darish Libour, qui est un proche du roi Zimrilim. À propos de la fille de la reine, il avait eu une transe. La fille de monseigneur n'a pas vécu, à présent, elle est morte. Elle était née le, passage un peu abîmé, le même jour, Iragamil avait eu une transe, disant « elle ne vivra pas ». Avant que le roi n'atteigne Marie, dis-lui que cette fillette est morte, afin qu'il soit au courant. Il ne faudrait pas que le roi, s'il entend parler du décès de cette fillette à son entrée à Marie, ne se mette à être profondément troublé. Ira Gamil, qui est mentionné dans la lettre, est connu comme Ecstatic Murhum du dieu Nergal. Et pas un hasard si c'est rattaché au dieu des enfers. Cet Ira Gamil, donc, avait prophétisé la mort d'une fille du roi peu après sa naissance, et le décès eut lieu alors que Zimri-Lim n'était pas dans sa capitale, sans doute en campagne. On jugea à ce moment-là nécessaire de le mettre au courant immédiatement, de façon qu'il ne montre pas son émotion lorsqu'il rentrera à Marie. Il est clair que tant de précautions n'auraient pas été nécessaires si la prophétie avait au préalable été portée à la connaissance du roi. Si l'on craint que Zimri-Lim ne manifeste publiquement trop le chagrin, c'est qu'il ne s'attendait pas à une mauvaise nouvelle. Son entourage lui avait donc caché la prophétie défavorable, jugeant sans doute inutile de l'alarmer, d'autant plus qu'il se trouvait à ce moment-là à l'étranger. De la même manière, on sent parfois une réticence à transmettre un rêve défavorable au roi, comme dans cette lettre de Kibri Dagan. Autre chose, un homme a vu un rêve, et Ahum me l'a répété en ces termes. La troupe ennemie est entrée dans les villes fortes, Marie, Terka et Sagaratum. Après avoir pillé, elle s'est installée dans les forteresses de mon seigneur. Ahum m'a répété son rêve, c'est-à-dire celui de cet homme mentionné au début, et il m'en a transmis la responsabilité en ces termes, écrit au roi. Voilà pourquoi j'ai écrit à mon seigneur. Alors le texte ne donne malheureusement aucun indice qui permette de situer précisément ce rêve dans l'histoire du règne de Zimri-Lim, mais quoi qu'il en soit, les trois villes mentionnées dans le récit de ce rêve sont les chefs-lieux des trois provinces centrales du royaume de Marie. Que l'ennemi les pille et s'y installe serait bien évidemment catastrophique. On sent bien que le gouverneur de Terka répugne à transmettre un rêve aussi défavorable, mais celui qui le lui répète fait peser sur lui la menace d'un châtiment, Arnoum. La première traduction est un peu large, il m'en a transmis la responsabilité. Le terme acadien de Arnoum, c'est le châtiment aussi bien que l'on peut avoir dans un contexte juridique que celui qui peut être envoyé par les dieux. Donc, menace d'un châtiment au cas où il n'écrirait pas au roi, d'où la formule finale par laquelle Kibri Dagan semble s'excuser de déranger le souverain. Alors, la question qui se pose, bien entendu, c'est de savoir si ces conduites dépendaient de l'équation personnelle des individus. Il y a un certain nombre de passages qui tentent à nous faire croire que Kibri Dagan était un peu réticent à l'endroit des prophéties. Dans une autre lettre, il raconte comment, au moment même où la moisson battait son plein, un extatique était venu le trouver pour qu'il répare d'urgence la grande porte de la ville. Faute de main-d'œuvre, le gouverneur décida de n'en rien faire, mais peu après, l'extatique revint à la charge avec des menaces très graves d'épidémie dans le secteur. Et du coup, Kibri Dagan écrivit au roi, mais ce qui est clair dans sa lettre, c'est qu'il écrivit beaucoup moins pour transmettre la prophétie que pour demander l'envoi de main-d'œuvre supplémentaire. Dans les cas qu'on vient d'examiner, ce sont les intermédiaires qui ont fait ou qui risquaient de faire écran entre le messager d'un dieu, prophète ou rêveur, et le destinataire. Mais les archives de Marie nous livrent aussi des exemples où ce sont les messagers eux-mêmes qui refusent de transmettre la communication divine. C'est à nouveau dans la correspondance de Kibri Dagan qu'on trouve un récit bien intéressant, un rêve horrible, comme le dit cette quinquagénaire interrogé par Freud. Le gouverneur de Terka traite un premier sujet dans sa lettre, et puis ensuite il ajoute « Un tel, son nom est cassé, a vu un rêve en ces termes. Voici ce que disait le dieu. Ne reconstruisez pas cette maison en ruine. Si cette maison est reconstruite, je la ferai tomber dans le fleuve. » Le jour même où il a vu ce rêve, il ne l'a dit à personne. Le lendemain, de nouveau, il a vu un rêve. Voici ce que disait le dieu. « Ne reconstruisez pas cette maison. Si vous la reconstruisez, je la ferai tomber dans le fleuve. À présent, je viens de faire porter chez mon seigneur la cordelette de son habit et la mèche de cheveux de sa tête. Depuis ce jour, ce serviteur est malade. » Alors, c'est un texte très riche, dont je vais simplement indiquer un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il faut remarquer dans cet exemple que le rêve est curieusement une expérience exclusivement auditive, sans qu'on rapporte aucun élément visuel, malgré l'emploi du verbe natalum, voir, mais Jean-Marie Durand vous a tout à l'heure expliqué pourquoi ça signifie que c'est un rêve qu'on doit prendre en compte. La mise en parallèle du récit des deux rêves successifs montre que le second est exactement parallèle au premier, avec quelques variantes minimes. Le fait que la maison soit en ruine, Haribam, dans le premier récit, manque dans le second. Et dans le second récit, on a l'emploi de la deuxième personne du pluriel, alors que dans le premier, on avait un passif. Mais ce sont vraiment des choses très minimes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bien que Kibri Dagan ne l'indique pas explicitement, il semble bien attribuer la maladie du rêveur au fait qu'il n'a pas immédiatement communiqué le contenu de son rêve aux autorités. Alors ici, bien sûr, on pense à l'histoire de Jonas, puni par Dieu pour avoir refusé d'annoncer aux habitants de Ninive le châtiment divin qui les menace. Je me suis amusé à trouver une autre illustration que celle de l'affiche du colloque, mais on était sous le patronage de Jonas, n'est-ce pas ? La différence, bien entendu, c'est que ici, on ne peut pas soupçonner dans notre texte le gouverneur de Terka de romancer l'affaire. Encore une fois, il s'agit de documents bruts. Et puis, on peut aussi citer un passage du livre de Jérémie où le prophète est tenté de ne plus transmettre les oracles divins. « Quand je dis, je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole de Dieu en son nom, alors elle devient au-dedans de moi comme un feu dévorant, prisonnier de mon corps, je m'épuise à le contenir, mais je n'y arrive pas. » Donc il y a cette idée qu'on ne peut pas résister à un message divin dont on est le dépositaire, et le malheureux qui n'a pas répété son rêve immédiatement le fait parce que ça lui vient une seconde fois, mais il est malade, et ce châtiment, cette maladie, c'est le Arnoum dont était bien entendu menacé Kibri Dagan dans l'autre récit. Simplement ici, le châtiment tombe sur le rêveur lui-même parce qu'il a refusé de transmettre et non pas sur l'intermédiaire qui aurait refusé. Et je voudrais terminer moi aussi par un texte inédit qui est à la fois très intéressant et très frustrant parce qu'il est assez cassé. C'est une lettre écrite par Rami Chagish dont seule la face est conservée. Donc je vous ai mis là encore le texte complet avec sa traduction. « Dis à Shunu Haralu, ainsi parle Rami Chagish, ton fils, le rêve que j'ai vu pour mon Seigneur n'est pas bon. Ce rêve est vraiment préoccupant. Or moi, je me demandais, dois-je répéter mon rêve ? Quand Yassim Soumou est arrivé et a dit, « Une extatique Mukhutum d'Eshtar Bisra est venue me trouver et m'a dit, pour la protection de... » Et puis, passage cassé, je protégerai, et puis toute la suite a disparu. Alors, c'est un cas exceptionnel, puisqu'on assiste ici au débat intérieur qui agite le rêveur. Étant donné le caractère funeste de son rêve, qui concerne le roi, doit-il ou non en faire part ? Et on voit ces hésitations interrompues par la communication qu'il reçoit de Yassim Soumou concernant la prophétie d'une extatique Mukhutum de la déesse Eshtar Bishra. Alors, l'état de la tablette ne permet pas vraiment de connaître la teneur de cette prophétie. Elle semble plutôt positive, puisqu'on a l'affirmation « Anatsar, je protégerai » à la ligne 17, qui semble bien concerner le roi. Ça n'est pas le seul cas de transmission simultanée d'un rêve et d'une prophétie. Il y a une lettre célèbre où la reine-mère Adoudouri transcrivit à la fois deux rêves qu'elle avait eus successivement et ensuite une prophétie d'une extatique Mukhutum de la déesse Anunitum. Alors, c'est un cas peut-être un tout petit peu différent dans la mesure où son propre rêve était également très défavorable, mais que la prophétie était d'une tonalité voisine. La déesse ne garantissait la sécurité de Zimrilim que si le roi renonçait à partir en campagne et restait à Marie. En l'occurrence, si on revient à notre texte, il semble que Rami Chagish ait décidé de se tourner vers le secrétaire de Zimrilim, Shunu Haralu, si la restitution de la première ligne est juste, mais elle est assez vraisemblable, d'après l'emplacement et ce qu'on sait par ailleurs des habitudes de l'époque. Et donc, en écrivant au secrétaire du roi, il laisse à celui-ci le soin de décider s'il devait transmettre ou non au roi un rêve défavorable, alors qu'au même moment, la déesse Eshtar-Bissra assurait le souverain de sa protection, à moins que la prophétie qui est à la fin ne soit une prophétie de secours qu'avec des restrictions. Je te protégerai à condition que tu n'ailles pas t'exposer, ce que l'état, malheureusement, de la tablette ne permet pas de savoir. Il est temps que j'achève. On voit donc que les prophètes ou les personnes qui rêvaient avaient le sentiment d'avoir été choisis comme messagers par un dieu. Mais quand le message était défavorable, le messager lui-même, aussi bien que l'intermédiaire chargé d'acheminer au roi la prophétie ou le rêve, pouvait hésiter. C'est ce dont témoignent les cas de censure ou d'autocensure que je viens d'analyser. Et ceci montre, une fois de plus, que les textes qui nous sont parvenus, malgré leur nombre qui peut paraître impressionnant, ne nous donnent accès qu'à une fraction très réduite de la réalité antique. Je vous remercie de votre attention.